Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, c'est le 10h midi et à 11h, vous le savez, comme tous les jours, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Dominique de Montvallon. Bonjour Dominique, bonjour, journaliste bonjour politique. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Bonjour, bonjour Valérie, bonjour à tous.
Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte.
C'est exact. Pas,
voilà. François Coq, membre de la France Insoumise. Vous avez publié L'impératif démocratique. Bonjour, bonjour à vous. Et ravi de vous accueillir ce matin sur Sud Radio. Alors, on va passer à vos coups de gueule et vos coups de cœur dans un instant. On va évidemment parler de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. C'est aujourd'hui. Alors, que veut Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est une amorce de comeback? On ne publie pas un livre comme ça de souvenirs sans raison. Enfin, peut-être que vous avez votre idée, Jacques Myard. La circulation différenciée qui n'est pas respectée. Alors, les Français sont-ils indisciplinés? Est-ce que l'exemple doit venir d'en haut? On va en reparler. Alexandre Benalla, une provocation de plus. De qui se moque-t-il? Il a perdu son portable, il ne veut pas le rendre au juge puisqu'il dit qu'il l'a perdu. Il dit également qu'il a une clé USB sur laquelle il a le contenu du portable, mais qu'il n'a pas du tout envie de le donner au juge maintenant, ce qui paraît quand même assez incroyable. Bref, beaucoup de sujets de débat avec vous, et on va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons peut-être par Jacques Myard.
Vous avez l'air en forme. Oui, moi je vais faire un coup de cœur à la canicule. Ça va peut-être vous surprendre, et je vous dire pourquoi. Parce que je trouve que quand Dame Nature se rappelle aux souvenirs des humains, eh bien, je dirais, ça les remet un peu en place. Et ouais. ça vaut pour tout le monde, moi le premier. Et donc, ça doit nous forcer à comprendre ce qui se passe et à s'adapter. Donc, je trouve que quelque part, même si ce n'est pas très agréable de vivre en canicule, quelque part, il y a un point positif, c'est le rappel à l'ordre. Et donc, ouais. ça me paraît quelque chose où... De manière continue, dans le passé, les hommes savaient qu'il ne fallait pas, je dirais, aller contre la nature. Dame Nature est là, elle se rappelle à notre bon souvenir.
Mais ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas écouté
non,
Dame Nature?
En réalité, moi où j'ai de fortes interrogations, qu'il faille ne pas jeter des plastiques à la mer, des choses comme ça, on est tous d'accord. Et là, il va falloir véritablement prendre des mesures draconiennes. Mais les causes réelles de ce réchauffement climatique, moi je suis très frappé par ce qui se passait au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, où il y avait l'esturage. Qu'est-ce que c'est que l'esturage? Ce sont des contrats de pâturage sur des zones qui aujourd'hui sont couvertes par des glaciers. Donc il y a des cycles. Oui. Et j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. On a parlé du Groenland qui veut dire la terre verte. Donc il y a des cycles. Et donc bien évidemment, l'homme a sans doute...
A une part de responsabilité.
Mais ça va au-delà. Et moi, j'ai rencontré pas mal de physiciens qui m'ont dit, attendez, il faut quand même regarder l'ellipse solaire, etc. Et ça, c'est passé, je dirais, par perte et profit. Donc, j'aimerais qu'on m'explique un peu plus.
Très bien. Bah, on demandera aux scientifiques de vous expliquer ça. Frédéric?
Moi, c'est un coup de cœur dans la perspective du match demain d'équipe de
France.
Non,
pas vous, oui, j'en peux plus, mais je n'en peux plus, vous me torturez.
Alors, je peux faire un coup de cœur sportif sur Roger Federer, mais
non,
je
non, 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 c'est bon, allez-y.
Non,
allez-y.
Je trouve que, je trouve que...
C'est douloureux pour Valérie, mais j'avais trop bien
que je ne vous écoute pas assez, ma chère Valérie.
Non, mais tous les jours, on a des gens qui nous font le coup de cœur sur l'équipe de France. Alors, allez-y.
Très, très vite.
Non, mais c'est sympa.
D'arriver en quart de finale contre les Américaines qui, pour une fois, sont moins arrogantes que d'habitude et disent que ça va être
plus dur. Les Françaises ont un jeu particulier.
Un homme de chiffres, il y a un engouement populaire. Quand on fait 10 millions d'audience de téléspectateurs, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant.
Elles ont la cote, on est d'accord.
Elles ont la cote. Ce qui est, assez intéressant aussi,
c'est... de la provoque, les Français sont des moutons.
Non, je ne pense pas que les Français soient moutons. On a vu des épreuves sportives.
Non, mais c'est formidable de les voir unis autour de cette...
Voilà, puis il peut y avoir une petite épopée par Omotesi avec ce qui s'est passé du côté des garçons en 2018. Et puis, la bataille d'Hernani à laquelle on a assisté ces dernières semaines, c'est pas du vrai football, etc. Eh bien... Ça rappelle ce qu'on disait il y a une trentaine d'années dans le tennis féminin. On se souvient d'un match du siècle entre Billie Jean King et un joueur de tennis pour montrer que voilà, petit à petit, c'est un sport nouveau en France. Il y a peu de clubs, mais peut-être on est au début d'un engouement populaire comme on l'a vu aux États-Unis il y a une quarantaine d'années.
Oui, vous avez
voilà,
peut-être entendu.
Je ne vous ai pas convaincu, mais c'est si, pas grave
si,
du
si,
tout.
Si, 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 mais ce sont des arguments. Hier, je ne sais pas si vous avez vu dans l'émission Quotidien, ils sont allés à l'Assemblée nationale pour interviewer des députés en leur demandant de citer trois noms ou un nom de joueuse de l'équipe de France.
Je peux en citer trois.
Oui, vous, oui, mais les députés en étaient bien incapables. Le problème, vous en êtes capable ou pas, Jacques
Mia? Non, j'en suis incapable, même pour les hommes, hein, oui. Je vous dis tout net. Le problème, ce n'est pas un problème d'individualité, c'est un problème d'équipe.
Ouais.
Et donc, c'est une faute que d'aller demander le nom d'une telle ou d'un tel. C'est un travail collectif.
C'est un travail, ouais, voilà, vous en seriez sorti
oui,
comme ça,
puis,
pas mal.
Quotidien
pas mal.
Est souvent sur le ricanement vis-à-vis du personnel politique et ça n'apporte pas
non,
grand-chose.
Oui,
chose
mais c'est un fait. Est-ce que vous pouvez me donner véritablement le nom du secrétaire général des Nations Unies?
Si, bien sûr.
D'accord. La directrice du Fonds monétaire, le président de la Banque mondiale.
Bien sûr, non, mais vous avez
raison. Voilà,
donc le Fonds monétaire, c'est une Française, donc
on le sait.
Voilà. Mais nos auditeurs sont d'accord avec moi. Du pain, des jeux, la distraction pour les gueux, voilà. Bref. Non, mais c'est. Effectivement.
Un coup de cœur plus politique ou un coup de gueule plus politique la prochaine fois.
Alors, pour vous, François?
Moi, ce sera un coup de gueule, comme souvent, sur la dissimulation de la part du gouvernement et de M. Castaner du décompte des signatures pour obtenir le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. On a là un procédé qui est absolument absurde et totalement antidémocratique. On voit que même sur le site, il y avait des moyens de recollement qui étaient compliqués, quand bien même le gouvernement a refusé de donner à voir ce compteur et le gouvernement est intervenu pour aller bloquer la page qui permettait de faire ce recollement. Autrement dit, il y a une volonté délibérée de la part du gouvernement de ne pas donner à voir l'état d'avancement des signatures pour le référendum de manière finalement à freiner la dynamique qui pourrait se constituer pour obtenir celui-ci. Sauf que ces signatures et le recueil de ces signatures est d'une nature très particulière. C'est un seuil qui est fixé. Autrement dit, l'évolution du nombre de signatures participe du mouvement qui permettrait d'atteindre ce seuil. Donc c'est un acte politique.
C'est pire que ça, cher ami, parce que j'ai essayé d'aller sur le site et on m'a dit mais vous n'êtes pas sur les listes électorales d'une ville dont je suis le maire. Donc je suis tombé des nues.
Ouais.
Sur les premiers jours, il y a eu des personnes sur trois qui se connectaient, qui arrivaient
à
signer.
Ils ont expliqué qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement et à une telle affluence. Il y a eu la même chose avec les impôts, donc après ça a été rectifié. Mais c'est vrai que la disparition du compteur, comment on peut l'expliquer? Quelqu'un a une explication?
Ils ne s'y attendaient pas. Il y a une douzaine d'années, il y avait eu un référendum sur le devenir de la Poste, un référendum papier qui avait, je crois, dépassé, je ne sais pas sous votre contrôle, 1 million de signatures. Alors voilà, est-ce que c'est un vrai bug? Est-ce qu'il y a un acte politique derrière, je ne vais pas prendre position là-dessus, mais très très clairement...
Mais quelle est l'explication, freiner...
En tout cas, il y a un vrai mouvement d'opinion, c'est très intéressant, qui dépasse complètement le clivage gauche-droite, où il y avait un vrai clivage privatisation-nationalisation, s'opposant très massivement, de l'ordre de 3/4, à la privatisation d'ADP.
Il faut 4,7 millions de signatures pour mettre en place ce RIP. Et je ne sais pas, Dominique, vous avez une explication?
Je n'en ai aucune.
L'absence de communication officielle du gouvernement, donc c'est vrai que c'est assez compliqué.
Donc autrement dit, maintenant, c'est une chaîne humaine qu'il faut mettre en place pour arriver à contourner ce blocage, cet ostracisme gouvernemental sur la question. Le gouvernement met la démocratie sous séquestre. Aujourd'hui, nous en sommes à 400 000 signataires. Ça veut dire que chaque signataire actuel, s'il fait signer 12 personnes autour de lui, nous atteindrons les 4 770 000 signatures nécessaires pour obtenir un référendum. Et plus il y aura de gens qui signeront, plus l'implication populaire et plus la dynamique participera du fait que ce nombre de gens qu'on devra convaincre autour de nous diminuera. Donc moi, j'invite à ce que cette chaîne citoyenne aujourd'hui vienne briser la chaîne de l'esclavage démocratique qu'essaie d'entretenir le gouvernement.
C'est un vocabulaire, l'esclavage démocratique.
C'est bien trouvé, la formule est heureuse.
Ouais, esclavage démocratique, impossible de le signer, nous dit Céline. Donc c'est vrai que visiblement, il y a encore des problèmes.
Il y a plus que des problèmes. Il y a véritablement, je dirais, un dysfonctionnement, voulu ou non, mais il y a des dysfonctionnements.
Oui, Dominique,
Mon coup de gueule est dirigé contre le secrétaire d'État au numérique,
Cédric O,
qui a eu l'idée... sympathiquement inapproprié de proposer d'un ordre des journalistes.
Oui, c'est ça. Alors, conseil de l'ordre des journalistes.
Il y a beaucoup à dire sur les journalistes, et s'il faut le dire au passage, je le redis, je ne pratique pas Je ne pratique pas le corporatisme journalistique en disant « pas touche, on n'a pas le droit d'eux », etc. Mmh. Il y a beaucoup de questions qui se posent, je ne vais pas les énumérer là, mais et en témoigne simplement le fait que les journalistes sont très rudement notés par les... par l'ensemble des Français. Dans les professions, c'est l'une des... en bas de la chaîne, si je puis dire.
Ouais.
Mais c'est dérisoire. Non seulement une idée comme celle-là est discutable, mais venant d'un ministre ou d'un secrétaire d'État, elle est perdue d'avance. Enfin, je veux dire, elle n'a absolument aucun sens. Voilà.
Ouais.
Je ne sais pas comment exprimer.
C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre.
Il n'y a rien à comprendre. C'est une idée qui a traversé traversé la tête de ce secrétaire d'État. Elle est inappropriée. Il ferait mieux de l'oublier très vite.
Oui.
À mon avis, les ordres ont la vie dure. Vous vous souvenez que certains ordres ont été créés dans des temps qu'on ne veut pas reconnaître. Et bien évidemment, après, ils ont perduré. Donc, il y a parfois l'utilité des ordres.
Mais cela étant, effectivement, l'initiative...
Mais c'est encore un machin en plus. Non, mais d'une part,
l'initiative, où je suis d'accord avec M. Montvalon, c'est que l'initiative venant, dans l'état actuel des choses, d'un secrétaire d'État du gouvernement, on dit qu'est-ce qu'il cache derrière. Évidemment. La discipline organisée, c'est ça?
C'est ce que André Bercoff avait rappelé hier, que c'était une mesure que Emmanuel Macron, pendant la campagne, jugeait fasciste, qui rappelait les années 30.
Oui, mais enfin, vous savez, il a fait tellement de tête à queue que je ne sais plus où il est.
Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, non? Vous avez un avis, François?
J'ai bien noté, effectivement, le fait que le secrétaire d'État est en contradiction a priori totale avec le président de la République. On se demande pourquoi cette idée est ressortie du chapeau aujourd'hui. Oui. Ceci étant, sur le fond, la question quand même de la manière dont les journalistes fonctionnent collectivement doit être posée.
Il y a des vraies questions.
Oui, non, mais il y a des questions.
Et il ne faudrait pas évacuer la question telle qu'elle est aujourd'hui.
Qui concerne tout le monde sans exception. Voilà.
Ouais. Donc il a dit exactement qu'il voulait un conseil de l'ordre des journalistes, faute de quoi l'État s'en chargera.
La phrase est assez maladroite. Il assume cette nouvelle fonction secrétaire d'État et ce sera déjà très bien.
Je rappelle donc il y a quelques jours une journaliste lui a posé la question sur les zones blanches. C'est les zones blanches, c'est ça, quand on ne reçoit pas Internet.
Oui, ça c'est important.
Sauf qu'il a répondu à côté en disant le problème c'est pas les zones blanches, c'est les gens qui savent pas se servir d'Internet. Faudrait mettre en place des formations.
Donc, il est visiblement tout nouveau dans ses fonctions.
Voilà. Moi, je voulais.
Ce serait presque des illettrés, ces gens-là, des gens qui ne sont rien.
C'est un petit peu cela, voilà. Coup de cœur pour Zora Bitton. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme qui est très engagée, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui se bat, qui est, alors elle, d'origine, qui est musulmane, qui est mariée avec un juif, qui est athée, qui se bat pour la laïcité. Bien, depuis hier, elle est victime d'intimidation, des coups de fil incessants qui viennent de Russie, du Maroc, de Tunisie. Des Comores, des appels toutes les minutes. Donc, elle a publié hier sur Twitter, victime d'intimidation au moyen d'appels téléphoniques incessants, probablement suite à mes positions sur l'islamisme, plainte déposée avec tous les numéros fournis, défendre des convictions est dangereux, ce qui confirme que nous avons raison de ne pas nous taire. Voilà, mais quand on ne se tait pas, on est victime de cela. Donc, je soutiens Zora Bitton, je voulais le dire, à ce micro, parce qu'on peut, c'est assez insupportable. Donc, plainte, et je pense que ça suivra son cours. Enfin, il faut espérer que...
Il faut aider et soutenir, mais alors vraiment, bec et ongle, tous les défenseurs de la laïcité, surtout quand ils ont des origines comme cette personne.
Même quand ils n'en ont pas, c'est d'autant plus malheureux.
Si...
Oui, je vous comprends, votre intention n'était pas malicieuse, mais c'est un peu ambigu quand même, quand je vous entends dire ça. Défendons la laïcité.
Oui,
bon,
mais le problème, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont particulièrement menacées, qui marchent avec 3-4 gardes du corps, je pense à Zineb El Razoui, par exemple.
Mais on peut dire que la laïcité est
un combat républicain. Elle est plus que mise en cause. On est d'accord.
Absolument.
Elle est plus que mise en cause. Elle est combattue.
Deux tiers des Français ont le sentiment que la laïcité est menacée aujourd'hui en France.
Absolument.
Ils ont récatifié pour Fondation Jaurès.
Bravo.
J'ai casé.
Vous l'avez casé. Allez, on se retrouve dans un instant, la sortie du livre de Nicolas Sarkozy. Qu'en pensez-vous? Que cherche-t-il? Pourquoi ce livre? Irez-vous l'acheter? En tout cas, il est en tête des ventes sur Amazon ce matin. Je suis allée regarder. Visiblement, c'est un livre qui va se vendre, comme tous les livres des anciens présidents d'ailleurs. A tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. A tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour le 10h midi. Nicolas Sarkozy publie aujourd'hui un livre Passion, tiré déjà à 200 000 exemplaires, dans lequel il revient sur sa vie, sans ordre chronologique. Ce ne sont pas des mémoires. Il s'arrête en 2007, la date de son élection. Donc, il a eu envie d'évoquer des passages, des moments de sa vie. Donc, il parle de son divorce, il parle également de ses relations avec François Fillon. Déjà, avant de parler du fond, comment vous comprenez, vous, Jacques Myard, la publication de ce livre ?
Je connais un peu Nicolas Sarkozy.
Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question.
Je me suis parfois opposé à lui et il a dit, si vous connaissez quelqu'un qui est capable de manipuler Myard, vous me le présentez. Donc je ne vais pas me laisser manipuler dans un sens ou dans un autre. C'est un homme qui a une passion effectivement pour la Respublica et je dirais l'action politique et qu'il fasse aujourd'hui part aux Français de ce qu'il a ressenti ou de ce qu'il ressent encore sur la politique est tout à fait légitime. Est-ce que ça signifie un retour ? J'en doute quand même, parce qu'il a suffisamment clamé. Moi, je lui avais dit d'ailleurs, lorsqu'il avait repris l'appareil, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec un appareil ? Est-ce que tu n'es pas en train de te piéger toi-même ? Et donc, je crois qu'effectivement, est-ce qu'il sera Cincinnatus ? On verra. Mais on en est
rappelez
encore loin.
Rappelez qui est Cincinnatus pour.
Cincinnatus, c'est ce Romain qui était derrière sa charrue et qu'on est venu chercher pour rétablir la République. Bon.
Vous pensez que c'est ce dont il a envie ? En gros, posons clairement la question. Est-ce qu'il a envie de revenir ?
Mais dictateur républicain. Mais ce qui est certain, c'est que, à mon avis, il regarde toujours la situation politique. Il donnera toujours, je dirais, un jugement ou de quelques phrases sur la situation politique. Maintenant, est-ce que il est en capacité de revenir parce que c'est un long parcours, on verra, mais il ne faut jamais jurer de rien.
Mais est-ce que c'est ce qu'il a derrière la tête, à votre avis ?
Il a un besoin, et ça c'est tout à fait légitime parce que je le partage, d'exister et dire je suis toujours là. Et ça, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il y pense toujours en se rasant le matin ?
Je n'irai pas jusque-là, parce qu'il vient de se faire laisser pousser légèrement la barbe. Donc il se rase un peu moins. La dernière fois que je l'ai vu. Mais ce qui est clair, c'est qu'il a toujours un discours qu'il peut tenir et. Un certain nombre. Ce qu'il dit n'est pas, je dirais, inaudible et ce qu'il dit n'est pas incompréhensible et peut toucher les Français.
Oui, alors, on rappelle, Frédéric Dabi, qu'il arrive dans votre dernier sondage IFOP sur Eudes Radio, en tête, derrière Nicolas Hulot.
Tout à fait, il est deuxième personnalité préférée, ce qui ne lui était jamais arrivé, même pendant son épopée avant la campagne présidentielle de 2007. Ce qui frappe, c'est que c'est un vrai refuge pour les sympathisants de droite. Dans une enquête IFOP pour le JDD, c'est celui qui était perçu comme incarnant le mieux la droite. Dans cette enquête de popularité, il arrive nettement en tête. Il est aussi très soutenu par La République En Marche, c'est-à-dire que la Sainte Alliance que l'on voit sur beaucoup de questions d'opinion entre sympathisants LR et sympathisants En Marche, sur les questions de réforme, sur les questions de personnalité, là, on la retrouve pleinement sur Nicolas Sarkozy. Maintenant, est-ce qu'il va revenir ? Est-ce qu'il veut revenir ? Je n'en sais absolument rien et personne ne peut le dire. En tout cas, quand on voit l'état des Républicains aujourd'hui et le désarroi relatif du peuple de droite, oui, il peut apparaître comme un recours, mais c'est une décision personnelle, sans oublier qu'il y a aussi un agenda judiciaire qui peut-être le contraint.
Oui, François.
Oui, je crois
François
qu'il y a effectivement deux dimensions. Et la première, qu'il ne faut surtout pas occulter, c'est que Nicolas Sarkozy va être jugé en correctionnel pour corruption et trafic d'influence dans les mois qui viennent, pour l'affaire des agendas de l'affaire Bettencourt, et qu'il y a encore l'épée de Damoclès qui pèse sur lui de l'affaire Big Malion. Donc Nicolas Sarkozy est quand même sans doute tenté de jouer l'opinion contre le pouvoir judiciaire et de surfer un petit peu sur la dynamique qu'il pourrait jouer. Donc ne nous y trompons pas, je pense que ça tombe dans cette temporalité-là et pas par hasard. Après, il y a aussi une dimension politique. Nicolas Sarkozy a fait le constat, comme tout le monde, de l'échec du macronisme et de La République En Marche en tant que mouvement, c'est-à-dire l'incapacité de La République En Marche et d'Emmanuel Macron à pouvoir et à avoir été le chaînon manquant démocratique entre les gens et la représentation. Donc de fait, il analyse ça comme le fait qu'il y a besoin d'un nouveau lien peut-être plus direct. C'est pas mon avis, mais je pense que ça peut être le sien entre le peuple et celui ou celle qui est amené à le diriger. Et il se place en position de recours. Il le fait d'autant plus facilement que LR a été emporté lors des dernières élections européennes et qu'après l'effondrement de la social-démocratie dans les deux dernières décennies, c'est au tour de la démocratie chrétienne d'être de plus en plus fragilisée et la droite en cours d'explosion et de recomposition.
Oui, Dominique.
Écoutez, j'ai depuis 24 heures, j'ai entendu les extraits qui étaient proposés sur les différents écrans, les extraits du bouquin, je les ai lus plutôt, je les ai regardés, j'ai entendu les quelques-uns qui ont déjà lu le livre, je n'ai pas lu le livre. En revanche, au moment où vous me questionnez, j'ai lu l'excellentissime interview de Sarkozy dans Le Point. Pourquoi excellentissime? Parce que le problème, c'est quel que soit le regard que l'on porte sur Sarkozy, ça c'est du journalisme. Ouais. Heureusement, c'est pas une exception exceptionnelle, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ceux qui l'ont interviewé, mais les confrères qui l'ont interviewé, ne sont pas venus nous imposer leur grille de lecture, leur truc. Ils ont posé des questions qui nous permettent de voir un personnage au naturel, revenu au naturel, qui est très passionnant parce qu'il est transgressif, il a vécu plein de choses et il les raconte avec les risques que ça implique, brut de décoffrage. Pas naïvement, mais enfin, je veux dire, il y va. Hein. Au moins, c'est pas politiquement conforme. Alors, moi, ce qui m'étonne, mais je comprends totalement votre question, Valérie, mais ce qui m'étonne, c'est que le livre est à peine entre nos mains. Il n'est pas dans mes mains, il le sera cet après-midi. Qu'est-ce qu'il cherche?
Sans savoir ce qu'il y a dans le livre, je vais vous dire.
On ne prête qu'aux riches.
Deux choses que j'ajoute. Ouais. Premièrement, j'ai lu avec passion l'interview avec beaucoup d'intérêt, pour enlever passion, du Point. Et je vais lire avec passion, et pardonnez-moi, le bouquin quand je l'aurai cet après-midi, quand je l'aurai acheté cet après-midi. Parce que vous parlez d'autres présidents, patrons, etc. On se fait un devoir de les lire.
Oui.
Mais souvent, ça nous tombe des mains.
Oui.
Là, c'est comme un polar politique. Attendez, c'est bien ça dont il s'agit.
On ne sait pas.
Si.
Alors attendez, on va y revenir. On a des appels. 0826-300-300. Est-ce que vous irez acheter le livre de Nicolas Sarkozy? On attend vos réactions sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Nous parlons de la sortie du livre de Nicolas Sarkozy, Passion, qui paraît aujourd'hui déjà en tête des ventes sur Amazon. Olivier est en ligne avec nous. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Mais très bien, et vous-même? Il ne fait pas trop chaud à Bordeaux?
Ah, il fait très chaud à Bordeaux, assurément.
Eh oui,
on est tous victimes de la canicule. Pour les climato-sceptiques, il est temps de se poser des questions.
Bon, et alors, vous allez vous enfermer et lire le livre de Nicolas Sarkozy?
Sûrement pas. Enfin, moi, je suis toujours sidéré qu'on puisse encore se poser la question du retour de Nicolas Sarkozy entre Pygmalion, Kadhafi, Bettencourt. C'était plutôt vers la prison qu'il devrait aller, ce monsieur. C'est pas très sérieux quand
alors,
même.
Alors, jusqu'à maintenant, je précise qu'il est présumé innocent, qu'il n'a été condamné pour rien.
Il a été condamné pour rien. Oui, présumé innocent, bien sûr. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'on enferme des gilets jaunes très rapidement, qu'il y a des clochards qui vont pour des vols de pâtes en prison à la vitesse grand V. Et quand il s'agit des politiques, ça se passe toujours autrement. Donc, on va attendre en effet la fin des. Mais avec les trois gros dossiers qu'il a derrière, là, moi, je comprends même pas qu'on puisse envisager un retour en politique. Enfin, à un moment donné, je veux bien qu'il soit l'ange immaculé qui s'est fait accuser pour rien du tout. Mais je crois qu'il faut peut-être arrêter de prendre les Français pour, excusez-moi le terme, pour des cons. Et puis un truc, c'est comme les sondages IFOP, quoi. Vous voyez, si c'est comme les sondages des autres, il faut arrêter, quoi. Avec la cote de Macron qui remonte, Sarkozy le personnage préféré, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Honnêtement, ça en devient très désagréable, quoi.
Alors peut-être. Frédéric Dabie est obligé de vous répondre.
Bonjour,
c'est directeur général adjoint de l'IFOP.
Point de vue, que monte les sondages IFOP depuis maintenant plus d'un an, c'est que la cote du président de la République est une cote minoritaire auprès de l'ensemble des Français, quelle que soit la catégorie sociale. Elle est plutôt en termes de stabilité, elle est à 30% de satisfait. Il y a quelques semaines un vote qui était les élections européennes. Bien sûr, ne comparons pas sondage de popularité et vote, mais le vote, c'est la vérité des prix. On ne peut pas dire que la République En Marche ait réussi un score particulièrement mauvais. Voilà, mais vous avez le droit de ne pas aimer Nicolas Sarkozy, tout ce que vous dites est complètement libre, mais pour autant, les sondages sont faits de manière extrêmement sérieuse, et le fait majeur de ces sondages, c'est que le président de la République est une personnalité impopulaire auprès de l'ensemble des Français.
Alors, on a un autre appel, on a Muriel avec nous.
Il n'est pas le seul.
On a Muriel en ligne. Bonjour Muriel.
Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Alors écoutez, moi je suis très fan de M. Sarkozy. Par contre, il ne reviendra jamais en politique parce qu'il a quand même subi deux échecs. Mmh. Et pour un président de la République, bon, bah, revenir après des échecs, c'est jamais très bon. Mais par contre, je pense qu'il est toujours, il aime son pays, il aime avoir été au pouvoir, mmh, comme beaucoup de présidents. Par contre, je vais acheter son livre parce que j'estime qu'on a, comme ceux qui ont acheté pour François Hollande, hein, il en a vendu pas mal, c'est toujours très intéressant de savoir ce qu'ils en ont pensé, comment ils se... Ouais. Voilà, ce qu'ils ont pensé aussi des autres. Maintenant, ouais, je respecte les gens, les sondages, ils sont ce qu'ils sont, mais auprès des... Vous avez vu que c'est énorme ce que les gens pensent. Par contre, il ne reviendra pas, il l'a dit. Alors, refaire des émissions pour dire « je ne reviendrai pas », voilà, c'est tout. Voilà.
Non, mais c'est après cette phrase un peu marronnier qui dit « tant qu'on n'est pas mort en politique, tant qu'on n'est pas mort, on n'est jamais mort en politique ».
Je vais vous dire une chose. Ce qu'exprime cette femme, c'est ce que nous ressentons chez certains militants qui sont véritablement pro-Sarkozy et le socle n'a pas bougé. Cela étant, ce n'est pas l'hypermajorité. Et puis, effectivement, la deuxième réflexion qu'on peut se faire, je dis souvent qui aurait mis un copec sur François Mitterrand après l'attentat de l'Observatoire. Et pourtant, il est revenu longtemps après, qu'il était plus jeune. Donc, moi, j'ai une formule, tant qu'on n'est pas au Père Lachaise... Oui. On a toujours ses chances.
Donc c'est ça, vous reprenez la phrase. Il y a Gourdance, un auditeur, qui nous dit « agenda judiciaire, euphémisme journalistique signifiant emmerde avec la justice
». Oui, mais c'est vrai qu'il n'a jamais été condamné non plus.
Non, il n'a jamais été condamné.
Alors, ce qui est vrai quand même, c'est que les temps ont quand même changé. Il y a une période de dégagisme. Les candidats ou les personnalités qui se reprenaient à deux fois ou à trois fois avant de gagner l'élection présidentielle, c'est quand même largement
fini. Il faut quand même tempérer le jugement qu'on a entendu tout à l'heure à l'antenne en disant « les politiques passent à travers ». C'est faux. Il y a quand même récemment un certain nombre de politiques qui ont été condamnés à des prisons fermes.
Bien sûr.
Oui.
Non, il y a quelque chose qui plaide pour Nicolas Sarkozy, c'est que dans cette forme de recomposition de la sphère politique aujourd'hui, à partir du moment où on considère, c'est mon cas, que cette décomposition va se faire sur trois gros blocs qui vont choisir une ligne de faille qui va créer une dichotomie de leur propre espace, un côté majoritaire, un côté minoritaire. On voit bien que le Rassemblement National va le faire sur la question de la ligne identitaire. On voit que le président Macron essaie de le faire sur la question de ce que moi j'appelle la ligne de l'individualisme, que certains appellent sur une ligne néolibérale. Et de l'autre côté, ce qui pour l'instant peine à émerger, que moi j'appelle de mes voeux, qui est une reconfiguration qui propose une ligne de faille stratégique pour la société, qui est sur la question de la liberté populaire, la question démocratique, la question de la souveraineté, de la capacité à décider collectivement. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que Nicolas Sarkozy se trouve quasiment au carrefour des deux premières lignes de faille que je viens d'évoquer. Donc ça plaide pour cette capacité. Après, moi, je suis d'accord avec vous. Les temps sont en train de changer et les gens aspirent aujourd'hui à reprendre la décision en main. Et cette vague, qui n'est pas simplement une vague dégagiste, qui est une vague de réappropriation de notre citoyenneté, de notre souveraineté collective, eh bien, celle-là fait que je pense qu'il n'aura pas les moyens de remonter sur le chemin.
De toute façon, sur la souveraineté collective que vous mentionnez, puisque moi, je suis soi-disant un souverainiste de droite, je peux vous dire que c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde.
Ouais.
C'est qu'il y a la réappropriation, effectivement, d'actions pour contrôler l'hyperlibéralisme qui n'a plus de règles. Et l'économie financière.
Attendez, juste Frédéric.
Non, je disais que ce que vous dites se retrouve complètement à l'échelle locale. Dans quelques mois, ce sont les élections municipales. On a vraiment un vrai bouillonnement sur vouloir être associé aux décisions qui sont prises et une attente la plus forte dans la perspective des projets municipaux, c'est une co-construction entre les citoyens et les élus, entre les représentants et les représentés.
Oui, Dominique.
Non, mais pourquoi le livre de Sarkozy va être acheté, j'ai aucun intérêt là-dedans, mais va être acheté et beaucoup lu, parce qu'il est perçu à ce jour, peut-être que ça changera dans X temps, ou à mon avis ça ne changera pas, mais enfin, parce qu'il est perçu comme hors du champ électoral et partisan, hein. Parce que, deuxièmement, la droite républicaine, appelons-la comme ça, dans sa complexité, quand elle était, quand elle réunissait les deux sensibilités qui faisaient la force de l'UMP, a implosé sous l'autorité subtile de Laurent Wauquiez et de quelques-uns de ses acolytes. Et parce qu'on est aussi dans une comme ça a été dit avant moi, j'apporte dans une phase de restructuration complète dont on ne sait pas quelles étapes ça va prendre, quelle forme ça, et encore moins sur quoi ça va déboucher. Et en ce sens, ce bouquin, dont pour partie, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait une dimension un peu de polar, c'est... On s'emmerde pas avec Sarkozy en le lisant, hein.
Non.
Peut-être dans la vie, mais on s'emmerde pas avec Sarkozy quand on lit Sarkozy.
Il est assez cash, je pense. Il parle de son divorce.
Il est cash et il raconte des trucs. On peut être d'accord ou pas, mais il va peser. Mmh. Il pesera par sa parole libre ou libérée. Et il pesera, parce que les autres, ils sont où? Mais ils sont où? C'est, la droite, ça se limite quand même pas à Marion Maréchal, quel que soit son talent potentiel.
Quelques extraits. L'ancien président se paie ses opposants. Ségolène Royal, capable d'affirmer quelque chose dont elle ne croit pas un mot. Également François Fillon, cassant, rancunier, et au profond mal-être. Et il parle de Dominique de Villepin comme quelqu'un de perché dans un monde virtuel. Il parle aussi de ses relations ambivalentes et paradoxales avec l'ancien président Jacques Chirac, une amitié quasiment filiale et paternelle, qui tourne parfois une forme de haine. Donc je pense qu'il dit, il est assez sincère dans tout ce qu'il dit. François,
mais n'oubliez pas que le succès de Librairie de François Hollande il y a quelques mois, que beaucoup voyaient comme le premier étage d'une fusée qui devait le remettre en situation, a fait pchit en seulement quelques semaines.
Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on a eu tort de dire que ça allait.
L'analyse est
erronée également.
Même si en France le genre des mémoires par des anciens présidents ou le genre du livre par une personnalité politique est quelque chose d'ancré, on n'a jamais vu un succès de Librairie se traduire politiquement. Nicolas Sarkozy, reparlons de lui, il sort un livre au moment de sa candidature en septembre 2016 lors de la primaire, le titre du livre m'échappe mais vous le trouverez. Ça n'empêche pas un score extrêmement décevant. Le pouvoir et la vie de Valérie Giscard d'Estaing, sous 3 tomes, ont été des véritables succès, mais jamais il n'y a eu le début d'une ouverture, d'une fenêtre ou un retour de Giscard d'Estaing dans la vie politique nationale.
Je pense que c'est François Coq qui a raison. L'opportunité de ce livre, ça correspond au calendrier judiciaire pour reprendre ce que c'est-à-dire aux emmerdes judiciaires qui arrivent.
Je pense honnêtement, personne ne peut le dire. On peut faire cette hypothèse-là, mais c'est quelqu'un qui est toujours extrêmement consulté, qui est encore dans la vie politique sans y être vraiment. C'est une première partie. D'ailleurs, il s'arrête en 2007. Il s'arrête à sa victoire en mai 2007.
Oui, moi je pense qu'il faut analyser ce livre comme étant la volonté de dire voilà ce que j'ai vécu, je vous le livre comme un, je dirais,
enfin, pourquoi
un
maintenant?
Mais parce qu'il y a un moment, pourquoi pas? C'est tout, c'est pas une question
Mais que c'est un rapport avec ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle le calendrier judiciaire, soit. Mais je veux dire.
Non, parce qu'il a fallu l'écrire quand même.
Il a des choses à raconter, il a envie de les raconter, il veut pas être réduit à des histoires de corruption dont il aura à rendre
compte
devant la justice. Il a encore le droit à une existence autrement que ce que le monde médiatico-politique.
Les salonnards parisiens, vous voulez dire?
Non, je ne veux pas être là-dedans, parce qu'en plus, j'y serai, justement. C'est quand même hallucinant que ce livre est à peine en librairie, achetable depuis ce matin, et que la seule question est de savoir si Sarkozy va revenir. La réponse est non, il ne reviendra pas. Et la deuxième réponse est le livre sera acheté et au-delà de ce que prévoit l'éditeur.
Il a le droit de l'écrire, mais on a le droit de penser aussi que c'est quelqu'un de pas si idiot que ça et qu'il a une ou deux petites idées derrière la tête quand même.
Mais bien entendu, ça n'empêche pas l'autre.
Le propre du politique, c'est de marquer de mettre des marqueurs. Donc il met ce marqueur en disant coucou, je suis toujours là, et puis on verra. Donc il ne faut pas jeter...
La vie politique à droite ne se résume pas au dialogue entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Voilà,
c'est
ce que je pense.
Sacha nous dit, libre à chacun de l'acheter ou pas. C'est aussi ça, la démocratie, pouvoir publier, acheter, s'exprimer comme on le souhaite.
Il a réussi quand même. Non, mais parce que j'ai un collaborateur qui l'a acheté hier, et qui, moins de 20 euros pour 380 pages.
Un bon rapport qualité-prix, c'est ça. Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler du énième épisode de l'affaire Benalla, avec le point qui nous apprend également encore. Enfin, il y a des épisodes, on ne compte même plus. Hein, un mystérieux fric-frac. Donc, déjà, il a perdu son portable, il ne veut pas rendre la clé USB sur laquelle il y a le contenu du portable. Et là, il y a un de ses proches qui vient d'être. Le coffre-fort vient d'être cambriolé. On n'a pas piqué les bijoux ni l'argent, mais on a volé des documents et des armes. Tiens donc. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et on reparle d'Alexandre Benalla qui a malencontreusement égaré son téléphone, qui ne répond pas au juge, qui dit au juge qu'il ne communiquera pas la clé USB sur laquelle il a le contenu de son appareil téléphonique. J'ai conservé les clés sur une clé USB que je compte communiquer, mais pour l'instant je ne souhaite pas dire où elle se trouve. Donc c'est un petit peu lui quand même qui mène l'enquête. On apprend ce matin via Le Point et Aziz Zemmoury que encore des éléments un petit peu curieux se sont produits, puisqu'il y a eu un cambriolage chez Johan Petit, qui est le patron de France Close Protection, qui est l'ex-employeur d'Alexandre Benalla. C'est celui qui avait récupéré le contrat de protection de la famille de l'oligarque russe. Et donc, il a déposé plainte ce week-end pour un cambriolage de son coffre-fort qui renfermait des armes et divers documents. On n'a pas touché aux bijoux ni aux billets de banque.
C'est un sacré coup de sparadrap pour l'affaire, hein. Parce qu'il y avait déjà ce fameux coffre qui avait disparu chez Benalla, et sur lequel il y a eu tout un tas d'hypothèses, dont acte. Mais ce qui est certain, c'est que cette affaire, c'est une poupée gigogne, quoi. C'est les poupées russes. Et on sait très bien qu'il y a des connivences avec un certain nombre d'oligarques, des choses comme ça. Et peut-être même au-delà. Donc,
Moi, ce qui me surprend quand on lit ces informations, c'est de voir que le tempo est donné. Voilà, patte-patte, elle nous dit Benalla fait la loi. C'est un peu ça, quand même.
Bah, c'est vrai que.
Est-ce que vous, justiciable ordinaire, diriez à un juge, en gros,
je fais ce que je veux et je vous donnerai ça. Alors, le problème, c'est que vrai, on a, je veux dire, les mesures de contrainte qu'il peut avoir. En règle générale, quand il y a un juge d'instruction, ils ont des méthodes en disant. Vous voulez pas me parler, très bien, je vous garde plus qu'en garde à vue, je vous mets en prévention. C'est arrivé souvent. Mais là, on verra bien si ce sera le cas ou pas. Ouais. Ce qui est certain, c'est que cette affaire est loin d'être terminée.
Ouais. Alors, on a en ligne avec nous Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vos auditeurs.
Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Tout au long de l'année, qu'il fait trop clair.
On ne vous entend pas, Jean-Paul. La ligne est mauvaise. François Coq.
Bon, Benalla est un ripoux de la République. Et un ripoux de la République parce qu'il a été installé au cœur de la République par le président Macron. Ça, c'est
ripoux,
un fait.
Ripoux, ce n'est pas de la diffamation?
Non, c'est pas, peu importe qui fasse ce qu'il en veut. J'assume. Par contre, là où moi je suis interrogé, c'est que je ne voudrais pas que Benalla soit l'arbre qui cache la forêt. Je reviens sur l'histoire du téléphone portable. On nous dit que ce téléphone portable a été perdu et qu'il ne veut pas le donner. Mais par contre, ce qu'on sait et ce qu'on a appris hier, c'est que ce téléphone portable a été allumé le matin de sa garde à vue, le 21 juillet 2018, pour passer un coup de fil ou au conseiller élyséen Ludovic Schecker. Il a été éteint ensuite pendant la garde à vue de M. Benalla et il a été rallumé le soir à sa sortie de la garde à vue pour passer un nouveau coup de fil acquis au directeur de cabinet de Brigitte Macron. Mais enfin, c'est quand même ça, moi, qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce faisceau, ce rayonnement qui part de M. Benalla et qui va jusqu'aux plus hautes institutions de la République? Et qu'est-ce qui se cache derrière Alexandre Benalla? Finalement, Alexandre Benalla, c'est quantité négligeable là-dedans. Moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui, depuis 18 mois, est caché aux Françaises et aux Français dans cette affaire.
Dominique?
Bah, il est clair, à votre façon, vous l'avez exprimé, que Benalla a été imprudemment et gravement installé au cœur de l'Élysée pendant de très longs mois. Et comme l'a dit Jacques Myard, j'adhère là, je pense que c'est une affaire gigogne qui n'a pas fini de nous réserver de tristes surprises au regard de l'éthique républicaine.
Est-ce qu'on arrivera au bout jusqu'à la dernière poupée gigogne? C'est la
c'est vrai
question.
Que c'est vrai que le feuilletonnage n'est pas bon pour l'exécutif parce que ça donne une impression d'une affaire qui n'arrive pas à être soldée. Quand même, je suis frappé par la lassitude relative des Français vis-à-vis de cette affaire. Hein, et j'ai
lassitude dans quel sens?
C'est-à-dire, d'une part, les différents rebondissements sont beaucoup moins mémorisés, c'est le baromètre fiduciaire pour Match Sud Radio, que les précédents. D'autre part, quand la semaine dernière, dans le baromètre IFOP JDD, j'ai en gros 2000 verbatim de Français satisfaits ou mécontents d'Emmanuel Macron, Benalla sort quand même très peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'a ça pas eu un effet. Ça a vraiment été un coup de semonce. Ça a contribué à banaliser l'image d'Emmanuel Macron et de mettre entre parenthèses sa logique de distinction par rapport à ses prédécesseurs. Mais le cœur des critiques vis-à-vis de l'action du président, c'est justement l'absence de résultats sur le pouvoir d'achat et une politique perçue comme antisociale. Benalla vient bien derrière. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque de resurgissement.
Parce que le moulin médiatique fonctionne de cette manière. Une affaire chasse l'autre. Ouais. Et donc, si ça revient parce que c'est une affaire poupée-gigogne, ça va revenir devant. Et on va retrouver la fameuse phrase « qu'ils viennent me chercher ouais. ». Donc, c'est quelque chose qui est du sparadrap et qui va continuer à alimenter, je dirais, les commentaires.
Alors, on a Jean-Paul, on a retrouvé Jean-Paul. J'espère que la ligne est meilleure. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Alors, c'est mieux. On vous entend mieux. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Écoutez, je pense que dans une période comme aujourd'hui, on demande beaucoup d'exemplarité aux Français sur l'écologie, sur l'économie, sur les efforts à faire et tout ça. Encore une fois, malheureusement, l'exemplarité ne nous est pas donnée par l'exécutif. Ça, c'est un problème, même si l'affaire Benalla peut paraître aux yeux de beaucoup un détail. Mais voilà, encore un qui s'accumule où, depuis des décennies, bah, les Français sont invités à être exemplaires. Mais on s'aperçoit que partout, il n'y a que mensonges, truchements, arrangements avec les lois. Enfin, vous imaginez, vous auriez fait ça, vous, qu'est-ce qui se passerait là dans la demi-heure qui suit ? Vous seriez peut-être en prison ou en garde à vue ? Non ?
Oui, oui, non, mais c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions.
Il l'a été brièvement.
Il l'a été, il est mis en examen.
Mais l'affaire Benalla est une rupture dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, au sens où le président a été élu sur cette promesse de renouvellement et de rénovation de la vie politique. Et si on se souvient de Montesquieu qui disait que la corruption de chaque gouvernement commence par celle des principes, eh bien là, on est en plein dedans et ça a été un révélateur pour beaucoup de Françaises et de Français.
Voilà, je voudrais qu'on parle de la circulation différenciée qui n'a pas été respectée par les Français. Alors, déjà, on l'a évoqué hier en disant que c'était une...
Quand fallait-il qu'il soit informé ?
Il y a eu quand même pas mal d'informations. On en a parlé, on l'a évoqué comme étant quelque chose de discriminant. Oui, dans les grandes villes, comme quelque chose de discriminant, puisque selon que vous êtes riche et que vous avez une voiture neuve, vous pouvez rouler. Et si vous êtes pauvre, donc des auditeurs nous disent moi, j'ai pas les moyens et j'ai pas eu le choix. C'est vrai qu'hier, François Ruffin est allé devant l'Assemblée nationale. On vous a passé le son tout à l'heure. Et il a vu les chauffeurs des ministres pas des députés qui n'ont pas de chauffeur, mais des ministres qui tournaient
Merci
à
de le préciser.
Pendant plusieurs minutes pour des ministres qui, ministère de l'écologie, qui est de l'autre côté du boulevard. Est-ce que l'exemple ne doit pas venir d'en haut ? Mais déjà, comment vous comprenez le fait que ça n'ait pas été respecté par les Français ? Pas informé pour vous, Dominique ?
Moi, je pense que les gens n'ont... Beaucoup de Français n'ont pas été informés. Enfin, c'est pas la seule raison, mais ils n'ont pas été informés. Ou alors, ils l'ont été sur le tard, au dernier moment. Et comment s'organiser ? C'est vrai, je sais pas s'il faut dire les plus pauvres. En tout cas, beaucoup de Français qui ont des... Avec leurs enfants, avec leurs obligations, etc. Comment fait-on quand au dernier moment, ça arrive ? Bon, ça arrive au dernier moment. Est-ce qu'il y a par ailleurs, je ne sais pas ce que vous suggérez au-delà dans votre question, est-ce que vous voulez dire qu'il y a une rébellion contre l'État qui tente au dernier moment d'imposer ses critères
c'est Non, je pense que peut-être que c'est une mesure à laquelle ne croient peut-être pas, je ne sais pas, ne croient pas les Français, si vous posez la question.
Il y a parfois pour certains l'impossibilité
de faire autrement.
Parce que c'est là où les mesures totalement générales qui vous tombent dessus du jour au lendemain provoque des problèmes à chacun.
Absolument.
Mais il y a une contradiction qui est difficile à résoudre entre la nécessité d'évoluer sur cette question écologique et la justice sociale. Parce que vous évoquez le fait que les gens n'ont pas forcément les moyens les plus précaires de changer de véhicule. On nous dit qu'il y a des aides. Mais enfin, moi, je les ai regardées, les aides. On vous donne 4 000 euros pour acheter un nouveau véhicule qui coûte 30 000 euros, les nouveaux véhicules qui vont être adaptés. Ouais. Et puis, vous parliez de cette différence financière, mais il y a aussi la différence géographique. Moi qui suis qui habite dans l'Est parisien, dans une ville qui a été construite au départ comme une ville dortoir par la préfecture de Paris à l'époque, les gens vont travailler de l'autre côté de Paris, donc ils sont obligés de se déplacer. Et puis il y a le troisième aspect, c'est que on renvoie les gens à leurs responsabilités individuelles sans que des grandes décisions soient prises. Depuis 2 ans, le bilan du gouvernement en question écologique, sur les dimensions écologiques, est quasi nul. Au moment où on demande aux gens de restreindre leur circulation, on voit que sur Aéroport de Paris, moi j'avais commencé par ça tout à l'heure, eh bien un lièvre vient d'être levé qui dit que la privatisation conduirait à augmenter le nombre de vols par an de Roissy-Charles de Gaulle de 72 millions à 120 millions de vols par an, avec toute la pollution que cela générerait. Donc les gens se disent, pourquoi ce serait à moi de payer pour les autres si l'État lui-même, la puissance publique, ne fait pas d'effort de changer structurellement les choses.
Frédéric, Dabi ?
Oui, alors, les Français, sur le principe, adhèrent à toutes ces mesures. Il y a vraiment une vraie préoccupation sur la pollution, notamment dans les grandes villes. Alors, vous faites part d'une certaine indiscipline. ça n'empêche pas qu'on est quand même sur un vrai basculement dans la logique de préoccupation des Français sur les
comportements.
L'opposition fin de mois, fin du monde, qui était au début du mouvement des Gilets jaunes, est toujours là dans les catégories les plus modestes, mais tente vraiment à être de plus en plus mise de côté. Et on est vraiment sur les deux grands enjeux qui vont sans doute être au cœur de l'élection présidentielle ou des futurs scrutins. La question du pouvoir d'achat. C'est sur cette question que Macron sera réélu ou battu. Et la question environnementale.
Ouais. Il y a un paradoxe.
On est tous pour le respect et la maîtrise, je dirais, du climat. Et éviter, effectivement, qu'on aille dans le mur. J'avais posé, au moment de l'accord de Paris... j'avais posé une question à Fabius qui avait présidé cette conférence et en lui disant, mais attendez, moi je voudrais comprendre un peu parce qu'il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre. Et il m'avait dit, il ne faut pas parler de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, il y a des différences. Et donc, ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire. Mais où vous avez raison, c'est qu'il va falloir s'adapter, ça c'est évident.
Il y a quand même une réalité concrète, voiture ou pas. C'est que c'est étouffant. Ceux qui ont une tendance dans les grandes villes et peut-être aussi ailleurs, tendance à l'allergie suffoque.
C'est 7 000 morts par an en Île-de-France.
La dimension environnementale est perçue par. Ça ne donne pas de solution. De plus en plus de Français comme une opération collective survie.
Pour la pollution. Il faut quand même dire aux Parisiens en particulier qu'on importe, je dirais, la lignite allemande.
Absolument.
Donc, il y a un moment, il ne faut pas prendre aussi les Français pour des imbéciles.
Je suis totalement d'accord avec vous. Michel Rivasi, vous voyez qui c'est une députée européenne, Écologie Les Verts, qui veut taxer le kérosène utilisé dans les moteurs d'avion. Mais figurez-vous qu'elle est allée de Lyon à Bruxelles en avion.
C'est pas elle qui est contre les vaccins.
Elle est contre les vaccins. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Franchement, on peut pas dire il faut taxer le kérosène. Je suis contre l'avion, prendre l'avion pour faire un Lyon-Bruxelles alors qu'on peut le faire en train.
Bien sûr, ça c'est clair. Mais ce qui me frappe dans notre société, ce sont les phénomènes panurges. C'est que tout d'un coup, tout part d'un côté. Et puis, c'est comme ça, c'est la vérité officielle. Et puis, il y a un moment, paf, ça revient en l'air. Et donc, ce phénomène panurge, alimenté aussi par les médias,
merci.
On est bien d'accord, mais grâce à vous, on existe, nous, les politiques. Et donc, il y a quand même un phénomène sur lequel on doit s'interroger, c'est ce phénomène-là.
Merci à vous, merci à tous les quatre. Dans un instant, André Bercoff, et il sera certainement en très grande forme. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio.